France Culture.
Au Japon, la coalition gouvernementale perd la majorité face à une forte percée de l'extrême droite au terme des élections sénatoriales. Le Premier ministre pourrait être contraint de démissionner. Nîmes, Béziers, Limoges, les scènes de violences urbaines se sont multipliées ces dernières semaines. Sur fond parfois de trafic, de stupéfiants, mais le dénominateur commun est bien la pauvreté, nous expliquera le sociologue Sébastien Rocher. Enfin, elle n'en finit pas d'exploser le compteur. La pétition contre la loi Duplomb vient de franchir le million de signatures ce soir. Une mobilisation inédite pour cette initiative citoyenne abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Au moins 57 personnes sont mortes lors de tirs sur la foule dans la bande de Gaza. Des Palestiniens tués et plusieurs dizaines d'autres blessés par l'armée israélienne près d'un point de distribution d'aide alimentaire dans le nord de l'enclave, affirme la défense civile de Gaza. Les précisions d'Alice Moreno.
Des milliers de Gazaouis affamés se sont rassemblés ce matin à proximité d'aides humanitaires dans la zone de Zikim au nord-ouest de la ville de Gaza. Tous avaient l'espoir de récupérer de simples sacs de farine pour survivre. La Gaza Humanitarian Foundation dément que la scène se soit déroulée à proximité de l'un de ces points de distribution. Ce pourrait être des camions transportant de l'aide humanitaire vers lesquels se dirigeaient les Gazaouis. C'est à ce moment-là que des dizaines de personnes ont été tués par des tirs israéliens, assure la défense civile de Gaza, et plusieurs dizaines ont été blessés. De son côté, l'armée israélienne indique avoir réalisé des tirs de sommation, se sentant menacée, sans donner davantage de détails sur la nature de cette menace. Par ailleurs, l'armée israélienne indique aujourd'hui étendre ses activités autour de Deir el-Bala, y compris dans une zone où elle n'avait encore jamais opéré, exhortant les civils à se déplacer vers le sud du territoire.
Les précisions d'Alice Moreno, correspondante en Israël de France Culture. À Gaza, où le pape Léon XIV appelle à mettre fin à la barbarie de cette guerre et à l'usage aveugle de la force. Le souverain pontife dénonce de façon inédite aujourd'hui les attaques militaires en cours dans l'enclave contre les populations civiles et les lieux de culte, 3 jours après la mort de 3 personnes jeudi dans la seule église catholique de la bande de Gaza, dans une frappe qualifiée d'erreur par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les affrontements intercommunautaires ont fait au moins 1 millier de morts en Syrie, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 128 000 personnes ont été déplacées, annonce pour sa part l'Organisation internationale pour les migrations. Sur place à Soueda, un premier convoi d'aide humanitaire a pu entrer dans la ville au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu, une semaine après le début de ces affrontements meurtriers entre combattants druzes et groupes rivaux. Les discussions sur le nucléaire iranien pourraient bien reprendre la semaine prochaine. Des pourparlers entre Téhéran, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, affirme ce soir une source diplomatique allemande. La date de cette réunion et le lieu exact ne sont pas encore connus. Une réunion donc après les menaces des puissances européennes de rétablir les sanctions de l'ONU contre l'Iran si Téhéran n'accepte pas de revenir à la table des négociations sur son programme nucléaire. C'est un revers cuisant et inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le parti au pouvoir au Japon. Le Parti libéral-démocrate du Premier ministre Shigeru Ishiba perd la majorité à la Chambre haute d'après les premiers résultats des élections sénatoriales qui se sont déroulées aujourd'hui sur l'archipel. Le gouvernement se retrouve désormais en minorité dans les deux chambres, ce qui pourrait aboutir à la démission du Premier ministre. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir.
C'est donc une situation politique incertaine qui s'ouvre au Japon.
Le Premier ministre Ishiba, qui est âgé de 68 ans, est à peine arrivé au pouvoir il y a 10 mois, mais il pourrait être contraint à démissionner. Effectivement, cette figure du parti libéral-démocrate est loin d'obtenir les sièges nécessaires pour garder la majorité avec son allié de centre-droit. La droite conservatrice avait pourtant réussi à se maintenir au pouvoir quasiment en continu depuis 70 ans. Mais en octobre dernier, un scandale financier au sein du parti lui a déjà coûté sa majorité à l'Assemblée nationale. Shigeru Ishiba espérait avoir convaincu les électeurs en colère avec des promesses pour un nouveau Japon, le programme de lutte contre l'inflation qui s'élève à plus de 3%, les aides aux Japonais à faible revenu et le déblocage d'une partie des réserves stratégiques de riz n'ont pourtant pas fait le poids face au slogan « le Japon d'abord » de l'extrême droite, et ce d'autant plus que les surtaxes imposées par Donald Trump ont fait chuter aussi les exportations de voitures vers les États-Unis de 25%. Or, l'automobile est un secteur stratégique pour l'économie de l'archipel nippon.
Et quel est donc ce parti d'extrême droite baptisé Sanseto, Dominique ?
Alors, Sanseto, ça veut dire « fais-le toi-même ». C'est une nouvelle formation politique qui a été créée pendant la pandémie de Covid et qui pêle-mêle est anti-vaccin, anti-masque. C'est aussi un parti populiste, ultranationaliste, conspirationniste, pour qui les étrangers et leur invasion silencieuse sont responsables de tous les maux de l'archipel nippon. Les capitaux étrangers sont aussi ciblés, ainsi que ce que Sanseto appelle le mondialisme totalitaire. Pourtant, les immigrés ne représentent que 3% environ de la population. La progression de ce parti ultranationaliste rappelle celle qui existe dans d'autres pays développés dans le monde.
Les explications de Dominique André de la rédaction internationale de Radio France. La police et le parquet parlent d'un guet-apens tendu aux pompiers et aux forces de l'ordre hier soir à Béziers, où une cinquantaine de jeunes ont contacté eux-mêmes les pompiers pour un feu de poubelle avant de les prendre à partie à leur arrivée. Les forces de l'ordre ont ensuite répliqué aux tirs de mortiers d'artifice, des tirs qui ont provoqué un incendie dans un appartement occupé. 300 personnes ont dû être évacuées. Tandis qu'à Limoges, vendredi soir, une centaine de personnes ont affronté la police durant plusieurs heures, après s'en être pris à des automobilistes, citons enfin Nîmes, où deux personnes ont été mises en examen aujourd'hui, soupçonnées d'avoir participé à une fusillade le 27 juin dernier sur fond de rivalité liée au trafic de drogue. Une fusillade qui avait fait 6 blessés, dont 4 mineurs. Alors ces violences urbaines sont-elles liées ? Nicolas Ballu a posé la question au sociologue Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions de police.
Le point qui les rassemble, c'est la pauvreté, c'est la concentration de la pauvreté. C'est-à-dire que la délinquance et la criminalité ont des racines dans la concentration de la pauvreté. Alors, c'est une chose que le gouvernement oublie, ne veut pas reconnaître, mais c'est une réalité fondamentale de la sociologie de la criminalité. Voilà, la pauvreté rend un certain nombre de jeunes hommes en échec scolaire, sans débouché d'emploi, particulièrement disposés à rejoindre des groupes criminels ou même à se lancer dans un certain nombre d'aventures délinquantes, et les met dans une relation de tension et d'hostilité avec les pouvoirs publics. Et c'est intéressant de voir que Piste 20 Val-de-Gour à Nîmes, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Limoges, le quartier de Val-de-Laurence, c'est pareil. C'est un quartier qui est en politique de la ville. Et ces deux villes-là, elles sont en Occitanie, qui est la région de France où, d'après l'INSEE, il y a le plus de concentration de la pauvreté monétaire, comme dit l'INSEE. C'est les gens qui ont moins de la moitié du revenu médian. Et Béziers, le quartier de la Devèze, c'est pareil, c'est un quartier qui est en politique de la ville. On a, depuis les années 80, de manière régulière, des affrontements. On est dans quelque chose, encore une fois, d'une hostilité enquistée entre les quartiers pauvres et la manière dont la police intervient dans ces quartiers. Il y a des groupes de jeunes, et particulièrement de jeunes hommes, qui ont un rapport très négatif avec l'ensemble des organisations qui sont sur place, à commencer par l'école, et puis en particulier la police, et même avec les autorités locales. Donc il y a un passé de confrontation, et il y a quelque chose qui a mis le feu dans ce cas particulier, c'est le cas de le dire, parce qu'ils ont allumé un feu, et qui les a emmenés à essayer de rechercher un affrontement avec la police.
Lorsque le maire de Limoges appelle à plus de prévention, il a raison.
Oui, enfin, je pense que de toute façon, là, les maires, ils sont pris dans une sorte d'enfer où il y a ces événements, il y a une grosse couverture médiatique, ils doivent faire quelque chose et tout le monde sait qu'ils peuvent rien faire. Bon, c'est compliqué pour eux. Donc certains peuvent vouloir mettre en place des couvre-feux, d'autres peuvent invoquer la nécessité de la sévérité de la justice, mais bon, la réalité, voilà, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire. Le paradoxe, si vous voulez, c'est ce qui est efficace contre la criminalité, et ce qui a été efficace, c'est la constitution d'un État social. Les solutions efficaces, c'est des solutions de long terme mises en œuvre par un État stratège. Et les solutions de court terme, c'est des solutions qui s'appuient sur la police et la justice, mais on peut augmenter la fréquence des interventions policières, on ne va pas changer les réalités socio-économiques, et on va peut-être et probablement même déclencher d'autres éruptions de violence. Mais en même temps, Ben, les pouvoirs publics ne peuvent pas rester les bras croisés. Donc, c'est toute la difficulté de la situation.
Le sociologue Sébastien Rocher, co-auteur notamment de La police contre la rue, il répondait à Nicolas Ballu pour France Culture. 1 million de signatures recueillies en 10 jours contre la loi du plomb. La pétition déposée sur la plateforme de l'Assemblée nationale n'en finit pas d'engranger des soutiens contre ce texte adopté le 8 juillet par le Parlement et censé lever les contraintes au métier d'agriculteur, mais en imposant plusieurs reculs environnementaux, dénoncent ses détracteurs. Le seuil des 500 000 signatures étant largement franchi, un débat pourra être organisé à la rentrée à l'Assemblée. Sa présidente Yaël Braun-Pivet y est favorable, même si la loi ne sera pas réexaminée dans le fond et encore moins abrogée. Une telle mobilisation citoyenne en plein été s'explique en large partie par les réseaux sociaux, à commencer par Instagram, où cette pétition a été relayée des centaines de fois, et notamment lourdie par des militants et créateurs de contenu sur les questions écologiques.
Qu'ils vivent à Marseille, Paris ou Toulouse, tous les signataires avec qui nous avons échangé le disent. C'est lorsqu'un influenceur écologiste a partagé la pétition sur Instagram qu'ils l'ont découverte et signée.
Sur Instagram, sur le compte de Gaëtan Gabriel.
Sur Instagram, notamment par la militante Camille Etienne.
Gaëtan Gabriel, créateur de contenu sur le climat, plus de 300 000 abonnés. Camille Etienne, activiste écologiste, près de 600 000 abonnés. Mais ils ne sont pas les seuls à être actifs sur les réseaux sociaux. Le gouvernement aussi assure le service après-vente.
C'est assez drôle parce que j'avais eu son service de com qui m'avait répondu.
Sur Instagram, Théo a interpellé directement la ministre de la Transition écologiste au sujet de la loi du plomb et elle lui a répondu.
Dans cette réponse, elle présente le fait qu'elle était contre la réintroduction du pesticide en question et qu'elle a perdu le vote. C'est assez étonnant de recevoir ce type de réponse, je ne m'y attendais pas du tout.
Et puis d'autres personnalités ont également relayé cette pétition. C'est le cas de l'acteur français Pierre Niney avec ses 2,3 millions d'abonnés.
Lou Bourdi et la gauche qui s'est fortement opposée à ce texte espèrent que cette mobilisation sera prise en considération par l'exécutif. Les écologistes demandent au chef de l'État de ne pas promulguer cette loi et réclament une deuxième délibération au Parlement sur le texte. Mais à l'Assemblée, la priorité de la rentrée sera certainement davantage du côté du budget et des quelques 43,8 milliards d'euros d'économies que le gouvernement entend réaliser l'année prochaine. Mais entre les critiques dans son propre camp et les oppositions vent debout, le Premier ministre est sous la menace de la censure. Il peut compter sur le soutien d'Amélie de Montchalin aujourd'hui. La ministre des Comptes publics exhorte à trouver un compromis dans un moment historique et espère aboutir à un projet de budget d'ici à septembre qui rassemble, dit-elle, le socle commun. Tous ceux qui briqueront la présidence en 2027 mais qui auront contribué au blocage ne seront pas crédibles, prévient encore Amélie de Montchalin dans une interview à La Tribune dimanche. On termine ce journal par une idée de sortie et de festival pour les Parisiens et les Franciliens qui ne partent pas en vacances. C'est la ligne directrice de Paris l'été qui a débuté le 12 juillet. Environ 80 représentations sont prévues pendant 3 semaines et demie. 35e édition de ce rendez-vous estival qui mêle danse, musique, théâtre, opéra et investit des lieux emblématiques de la capitale. Louis-Valentin Lopez a ainsi pu assister à une représentation de la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez.
Le public se sert sur des gradins installés dans le jardin des Tuileries. Ainhoa et Inigo, parisiens, ne sont pas encore partis en vacances. Inconditionnel du festival Paris l'été.
On a pris 10 ou 11 spectacles, je ne sais pas.
Oui, quand même.
on se prend un jour l'agenda et on dit allez, tac, 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 on fait ça et on s'achète toutes les places.
On est habitué pendant l'année de voir pas mal de spectacles. On a toujours trouvé que Paris l'été proposait quelque chose de différent.
Public pas très diversifié ce soir-là. Les Tuileries ne se prêtent pas forcément à la mixité. Le festival fait pourtant un effort en ce sens. Marie Lenoir, nouvelle directrice de Paris l'été.
On va dans les quartiers, on va dans les rues, on va dans les squares aussi.
Et qu'est-ce que vous faites? Vous distribuez des flyers?
Et ben on fait du porte-à-porte, hein, c'est vraiment... On travaille avec les associations des quartiers.
Et on s'appuie aussi beaucoup sur une articulation un peu inédite pour le festival avec les bailleurs sociaux.
17 lieux ont été investis cette année, précise Thomas Quillardet, metteur en scène et co-directeur du festival, avec une programmation souvent inattendue.
Par exemple, on peut faire un drag show aux Tuileries, un spectacle roumain au Palais de la Porte Dorée ou de la danse à la Monnaie de Paris. Voilà, on ne colle pas forcément à la thématique du musée.
Le tout, comme beaucoup de festivals, dans un contexte budgétaire contraint, d'autant plus quand certains financeurs se désengagent.
La région Île-de-France était partenaire du festival à hauteur de 100 000 euros. Elle est passée à zéro cette année. C'est-à-dire qu'il y a eu un mélange de coupes budgétaires chez eux, des relations avec la ville de Paris qui est un petit peu tendue, et puis un festival peut-être vu comme un trop parisien.
Ça n'empêchera pas le festival de jouer pour la première fois les prolongations jusqu'au 5 août, sorte de session de rattrapage pour les juilletistes.
Louis-Valentin Lopez à ce festival Paris l'été qui se déroule du coup jusqu'à début août. Un mot de météo avec une vigilance orange aux orages et ou pluie inondation étendue à 26 départements de la moitié est à partir de 20h ce soir de la Moselle aux Bouches-du-Rhône. Et les averses seront aussi fréquentes la nuit prochaine sur le quart nord-ouest. Demain matin, les orages se décaleront sur les Alpes tandis que des éclaircies reviendront à l'arrière. Un soleil généreux est attendu de la vallée du Rhône à Marseille et de la région toulousaine au Pays Basque. Et les ondées persisteront du nord à la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, eh bien, elles seront comprises entre 12 et 20 degrés en moyenne demain matin. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau, Alex Dang à la technique.